Écoutez IDFM en DAB+ sur toute l'île de France. Bienvenue à l'économie en direct. Jacqueline Voraz sur Radio IDFM avec Francky à la technique et Christophe. Bonjour Francky, bonjour Christophe. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez en direct sur IDFM Radio dans ce nouveau numéro de l'économie en direct. Une émission à écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+ sur toute l'île de France et dans le monde entier grâce à notre appli. Et bien sûr, une émission à retrouver en podcast sur le portail de la radio. Logement, Outre-mer, Jeux Olympiques, mais aussi 60 000 rebonds. Aujourd'hui, vendredi 15 septembre, jusqu'à 11h, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Vuittet. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Bienvenue et merci pour votre présence dans l'émission.
C'est un bonheur.
Du groupe politique Renaissance, réélu aux dernières législatives, vous êtes le député de la deuxième circonscription du Val d'Oise, réunissant Cergy-Sud, Neuville-sur-Oise, L'Isle-Adam et Saint-Ouen-l'Aumône. Lors de votre dernier passage sur notre station, vous nous aviez confié vouloir candidater pour un deuxième mandat, car vous considériez alors que votre tâche n'était pas terminée. On évoquera donc avec vous la poursuite de ces missions qui sont les vôtres aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À vos côtés, Carolina Rodriguez. Bonjour, Carolina.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir à nouveau dans nos studios.
Merci.
Responsable administrative et financière, contrôleuse de gestion, chef d'entreprise en reconversion. Vous avez choisi de vous faire accompagner par l'association 60 000 rebonds. C'est ce que vous nous expliquerez dans quelques instants.
Bien sûr.
Et à vos côtés, Philippe Salbert. Bonjour, Philippe.
Bonjour à tous.
Également ravi de votre présence avec nous ce matin. Ingénieur en plasturgie, diplômé du Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes aussi en reconversion. Vous nous raconterez votre parcours et cette envie de rebondir après l'arrêt de votre activité.
Très bien.
Encore bienvenue et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct. L'économie en direct, c'est aussi des chroniques. Et tout de suite, nous avons rendez-vous par téléphone avec Gérard Vespierre, chercheur et conférencier en géopolitique, auteur de notre chronique bimensuelle « Décryptons le monde », l'occasion d'avoir un autre regard sur certaines actualités internationales. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline.
Très heureuse de vous retrouver après cette interruption estivale, Gérard. Alors l'actualité internationale a été riche, Ukraine, Russie, Afrique, et va très certainement continuer à l'être. Pour ce premier numéro de rentrée de « Décryptons le monde », vous nous proposez de réfléchir ensemble quelques instants à la situation en Iran, puisque demain, 16 septembre, marquera en effet le premier anniversaire de la mort à Téhéran de la jeune iranienne Mahsa Amini, à cause d'un port de voile ne respectant pas les règles. Plusieurs mois de révolte populaire s'en étaient suivis. Seule une nouvelle et sanglante répression avait pu éteindre ce feu populaire. Pensez-vous qu'aujourd'hui les conditions soient réunies pour qu'un mouvement populaire enflamme de nouveau ce pays?
Eh bien Jacqueline, pour qu'un mouvement populaire prenne naissance, il faut des conditions économiques, sociales et un événement exceptionnel. Donc cette situation effectivement en 2002 était très 2022 était économiquement très difficile en Iran. Vous aviez un déclin de la croissance tout à fait marqué et aussi une inflation très élevée à plus de 40%. Et cela, ce n'était pas lié aux sanctions américaines, mais c'est une tendance économique continue dégradante et en décroissance du système. Donc un fort taux de chômage aussi, surtout pour la jeunesse, et on retrouve ce paramètre jeunesse, donc dans la rue, après donc le besoin aussi de liberté des femmes. Donc l'étincelle l'an dernier était la mort stupide de cette jeune femme, donc qui a finalement une contestation du régime, et ça s'est entendu dans les rues avec le cri en particulier de mort au guide. Donc les conditions de 2023 eh bien sont les mêmes. La situation économique est encore plus mauvaise avec une inflation qui flirte avec les 50%. Il n'y a pas eu de grand changement ou aucun changement de la part du gouvernement dans le domaine économique, et donc la demande de liberté est toujours aussi forte. Alors, quelle peut être l'étincelle? Eh bien, l'étincelle l'an dernier, c'était le décès. L'étincelle cette année, peut-être la célébration du premier anniversaire de cette disparition. Donc, les causes peuvent produire les mêmes effets et de nouveaux mouvements populaires peuvent apparaître dans les rues et demander encore plus fort la fin du régime.
Oui, voilà un constat très rationnel. On se dit que le gouvernement pourrait faire le même. S'attend-il, prévoit-il une nouvelle insurrection populaire ?
Alors, Jacqueline, l'élite religieuse et politique du régime, depuis des années, est tout à fait consciente de cette situation. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Nateg Nouri, en 2018, voyez-vous, il y a 5 ans, disait « Notre problème n'est pas l'accord nucléaire, notre problème est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir ». Donc le monde religieux, de la même façon, s'exprimait en disant « Si le peuple se révolte, nous les religieux, nous allons être jetés à la mer ». Donc c'est une situation connue du régime que ce bouillonnement social. Il y a eu les émeutes déjà en 2017-2018, 2019-2020, donc le cycle est régulier et s'accélère. Donc le pouvoir est conscient, il a déjà été confronté et il se prépare à cet affrontement. Le choix par le guide Khamenei du nouveau président en 2020, donc Raisi, qui est un homme venant du service et du département de la justice, qui a été impliqué dans des milliers de condamnations à mort, n'est-ce pas? En 1988, il était dans une responsable du tribunal de la mort dans une prison à Téhéran. Donc le pouvoir s'est vraiment organisé pour avoir autour de lui des irréductibles. Et donc maintenant, pour ce qui concerne cette rentrée, eh bien, il a organisé ses services de sécurité, de renseignement, en les dotant aussi d'équipements nouveaux et de dépenses impressionnantes allant jusqu'à 6 milliards de dollars. Donc il faut en conclure, il faut dire que le pouvoir se prépare à cet affrontement.
Et si de tels événements se produisaient, la France, les pays occidentaux auraient-ils les moyens d'intervenir? Selon vous, que pourraient-ils envisager de faire?
Il faudra effectivement aider le peuple iranien et tous les citoyens pourront se mobiliser pour amener les gouvernements à le faire si ces derniers hésitaient encore. Les gouvernements pourraient par exemple considérer des actions judiciaires contre les dirigeants iraniens, dont le président que j'évoquais tout à l'heure, pour les nombreux crimes commis. Ils pourraient aussi demander à l'Union européenne de placer les tristement célèbres gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Donc il y a aussi à souligner un élan mondial contre le régime iranien, figurez-vous que 3600 parlementaires dans le monde ont voté différentes motions de leurs pays respectifs demandant donc le départ de ce régime et donnant son soutien au peuple iranien. Donc une majorité d'élus à la Chambre des représentants à Washington et une majorité à Londres de la Chambre des communes a fait la même chose. Alors que se passe-t-il en France ? Eh bien, au début de l'été, cette année, 296 députés français et 105 sénateurs ont signé un document préparé par le Comité parlementaire pour un Iran démocratique, le CPID. Et cette déclaration appelle à soutenir le peuple iranien dans sa quête de changement et à des mesures fortes et décisives contre le régime actuel, je cite. Donc le monde politique français se mobilise aussi. Enfin, le temps sera certainement venu pour les gouvernements européens de se rapprocher de la résistance iranienne. Le Conseil national de la résistance iranienne, le CNRI, a d'ailleurs son siège en France, qui plus est à Auvers-sur-Oise, dans le Val-d'Oise, n'est-ce pas ? Les Val-d'Oisiens auront donc un rôle à jouer.
Gérard, là, vous me tendez une perche pour que je pose la question à Monsieur Guillaume Vuittet. Souhaitez-vous réagir, Monsieur Vuittet ?
Oui, je vais réagir d'abord pour dire que, évidemment, nous sommes derrière le peuple iranien et que on a tout à craindre d'une crispation supplémentaire d'un régime qui est aux abois. Il y a un régime de sanctions extrêmement fort qui a déjà été mis en place au niveau international, non seulement parce qu'il y avait évidemment la tentation du régime des Mollahs de se doter de l'arme nucléaire, qui n'est pas quelque chose qui est éteinte. Il y a aujourd'hui en plus une complicité visiblement active avec le régime russe pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine avec tous les exemples qu'on connaît. Il faudra à un moment donné que la société iranienne trouve en effet un débouché pour pouvoir se libérer. Je ne vais pas choisir entre les différentes mouvances de la résistance iranienne, d'une part parce que je ne pense pas en avoir les compétences. J'ai d'autres collègues qui sont beaucoup plus affûtés que moi là-dessus. Je pense qu'il y a en effet une certaine diversité, parfois même une difficulté de cette résistance à trouver une cohérence, mais c'est sans doute normal parce que la répression est tellement forte.
Oui.
C'est au quotidien. C'est-à-dire, l'interdiction, c'est dans tous les moments de la vie quotidienne qu'elle s'exerce. Ça ne favorise pas ça ne facilite pas la coordination des acteurs. Mais je pense que oui, bien sûr, il faut être derrière le peuple iranien et mener le régime de pression sur le régime aussi loin que possible.
Merci, Monsieur Guillaume Vuittet. Gérard, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte?
Écoutez, non, je pense qu'effectivement, le moment est tout à fait important pour la société iranienne et donc il faut, comme vient de le dire notre ami Guillaume Vuittet, que le peuple français aussi soit peut-être à un moment présent dans la rue pour soutenir les manifestations dans la rue à Téhéran.
Merci Gérard pour votre esprit de synthèse qui vous caractérise. Avant de nous quitter, je rappelle à nos auditrices et auditeurs qu'ils peuvent lire tous vos articles et voir toutes vos interviews télévisées sur votre site www.lemondedécrypté.com, un site gratuit. Il faut juste s'abonner. Je vous dis à la prochaine fois.
Merci Jacqueline.
Merci.
Bonne matinée avec
bientôt.
Vos invités.
Au revoir.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
C'est l'économie en direct et vous êtes bien sur Radio IDFM. Avec moi ce matin, Guillaume Vuittet, député de la deuxième circonscription du Val d'Oise, qui réunit les villes de Cergy-Sud, Neuville-sur-Oise, L'Isle-Adam et Saint-Ouen-l'Aumône. Carolina Rodriguez, chef d'entreprise en reconversion, accompagnée par l'association 60 000 rebonds. Philippe Salbert, également chef d'entreprise en reconversion, accompagné par l'association 60 000 rebonds. Guillaume Vuittet, alors une de vos missions lors de votre premier mandat concernait la lutte contre l'habitat indigne. Aujourd'hui, vous travaillez toujours sur le sujet, avec cette fois une proposition de loi portant sur le renforcement du contrôle de décence des logements et autres propositions de loi en préparation dans ce domaine.
Alors, je vais vous corriger, Jacqueline.
Je vous en prie.
C'est que j'ai le privilège d'être députée de 21 communes. Alors, celles que vous avez citées sont celles de l'agglomération de Cergy-Pontoise.
D'accord.
Mais j'ai un territoire très diversifié, d'ailleurs.
Ah oui, oh là
tout
là.
À fait magnifique, qui serpente le long de l'Oise et qui va donc jusqu'à l'Isle-Adam, mais aussi après dans la communauté de communes du Pays de Carmel et Pays de France. Et puis ma propre commune, Mairie-sur-Oise, quand même, que je ne pourrais pas oublier, sinon je vais avoir des problèmes de voisinage assez nets. Donc, par contre, c'est un territoire extrêmement divers et extrêmement agréable. Pour autant, il est touché, comme les autres d'ailleurs, par le phénomène de l'habitat indigne, qui est un phénomène beaucoup plus, quotidien, banal qu'on le croit. Parfois, ça peut être une maison en division successorale, on en reviendra peut-être tout à l'heure sur ce sujet, parce que personne ne sait exactement qui doit faire les travaux et où il n'y a pas les sous dans la succession pour faire les travaux, s'étiole et devient un habitat indigne. Parfois, ce sont des personnes qui sont en situation de fragilité ou des personnes très âgées qui ne se rendent pas très bien compte non plus des travaux à faire. Et puis parfois, ce sont des gens aussi beaucoup plus... il n'y a pas que cela, mais il y a aussi des gens beaucoup plus malhonnêtes qui simplement sont des marchands de sommeil.
Et qui
prennent des personnes en situation de grande fragilité pour pouvoir les exploiter au travers de loyers complètement déments et de logements très insalubres. Alors, vous parlez d'une proposition de loi. En fait, en 2019, Édouard Philippe m'avait confié un rapport sur ce sujet qui avait permis de transformer les procédures administratives qui permettent de repérer et combattre l'habitat indigne, qui était extrêmement complexe avant.
C'est ça,
je crois qu'il y avait 21 procédures, 13 polices administratives. On a réduit tout ça à 4 procédures et 2 polices administratives, donc je suis très heureux que ce rapport ait eu des effets. Mais après, il y a aussi un débouché législatif. Et ce qui est parfois un peu, comment dire, il y avait une sorte d'ironie dans les événements, c'est que la proposition de loi que j'ai redéposée il y a peu, et je l'ai déposée même de façon plus touffue un petit peu avant la fin du mandat précédent, et que là, elle provoque davantage de réactions parce que peut-être que le problème est plus sensible. L'idée qu'il y a derrière est d'arriver à une forme de contrôle technique des logements comme on le fait pour les véhicules, et c'est ce qui a permis qu'il n'y ait plus de circuit à roulettes sur les routes françaises, d'avoir mis ça en place, mais c'est autour de choses très simples qui existent déjà. On ne crée pas une répression supplémentaire, simplement vérifier que les logements sont décents. C'est-à-dire qu'on peut habiter dedans sans risquer ni sa santé, ni sa vie d'ailleurs, pour pouvoir vivre sereinement.
Oui, puisque chacun garde en mémoire l'effondrement d'immeubles récemment, donc est-ce que c'est lié ?
C'est bien sûr, c'est tout à fait lié. Le fait que des immeubles soient en péril, avec un risque d'effondrement...
Aussi vétuste que ça pour s'effondrer. Ouais.
Et généralement, ce sont des processus très lents. Alors, soit il n'y a pas d'entretien de l'ensemble de l'immeuble pour des raisons divers et variés, soit c'est un appartement ou un groupe d'appartements dans l'immeuble qui, comme ils ne sont pas entretenus, vont pourrir les structures au fur et à mesure. Donc il y a des risques. Mais avant même d'être en risque d'effondrement, c'est des problèmes de santé avec des enfants qui sont confrontés à des moisissures, parfois à du plomb, enfin bref, plein de situations. Et puis, ne parlons pas des rongeurs qui parfois peuplent aussi les appartements, alors même qu'on est dans des situations où il suffit de quelques mesures de travaux pour pouvoir résoudre tout ça.
Ouais. Oui. Alors vous parlez de cette mesure qui est la première, une mesure préventive instaurant un véritable contrôle technique. Moi, je me faisais la réflexion, vous faites une analogie avec le code de la route, mais sauf que pour la voiture, c'est le propriétaire qui se déplace pour apporter sa voiture pour le contrôle technique.
C'est bien le sujet.
Oui.
C'est d'ailleurs parfois il faut continuer à expliquer d'ailleurs les choses. C'est bien le sujet parce que. Aujourd'hui, on a mis en place ce qui s'appelle le permis loué. Et je trouve ça très bien, c'est un premier pas. Mais ce sont les communes qui doivent définir les endroits où on met en place le permis loué et qui doivent non seulement le délivrer, c'est-à-dire vérifier si un logement peut être loué ou pas, et ensuite en vérifier la validité. Quelque part, ça veut dire que la charge de la preuve est du côté de la commune. Je pense que c'est pas illogique que ce soit le propriétaire, y compris pour se protéger lui-même d'ailleurs, parce que un locataire un peu procédurier pourrait aussi chercher les failles pour pouvoir réclamer des baisses de loyer ou des remboursements parce que c'est pas vérifié. Donc le fait que ce soit le propriétaire qui, de toute façon, aujourd'hui doit quand on loue, on met en location un logement, à l'heure actuelle, je crois qu'il faut produire une demi-douzaine de diagnostics. En fait, l'idée du contrôle technique, c'est de les rassembler. Et il y en a qu'un, il y a qu'une chose en plus par rapport au diagnostic déjà existant, qui, je dirais presque, c'est le fait, enfin deux choses en plus. Un, que le bâtiment n'est pas en danger, mais enfin ça c'est le minimum. Et par ailleurs, il ne doit pas y avoir de rongeurs. Je reviens sur mes rongeurs.
Oui.
Alors je ne sais pas s'il faut les appeler des rats ou des surmulots, mais enfin bon.
Oui, oui.
Dans tous les cas, c'est pas
terrible. C'est un sujet important en ce moment.
Ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, c'est pas terrible quand c'est dans les appartements.
Oui.
Donc, le fait de consolider ça, il y a des diagnostiqueurs qui existent, qui font ces diagnostics qui sont d'ores et déjà obligatoires, les consolider et donc faire en sorte que du coup le bailleur soit sécurisé dans son acte de louer, c'est-à-dire personne pour le reprocher l'état du logement parce qu'il sera certifié, et pour le locataire avoir une garantie d'une jouissance sereine et normale des lieux.
Alors on a bien compris qu'il fallait donc lutter contre ces habitats indécents. Le deuxième outil vise à compléter ces outils de lutte en permettant d'apporter des fonds nécessaires à la rénovation des copropriétés dégradées.
Alors en fait, on se retrouve dans des situations où parfois les copropriétés, donc chacun, on a tous été confrontés à ça, enfin beaucoup d'entre nous en tout cas, n'ont pas forcément les fonds nécessaires à la rénovation. Le problème, c'est que je crois qu'il y a eu une étude qui est sortie pour voir quel était le degré de maintenance qu'il fallait donner à un bâtiment pour éviter qu'on soit dans des situations critiques. C'est-à-dire qu'on arrive à des situations où il y aura des réparations, des modifications lourdes du bâtiment pour le maintenir en état de sécurité. Je pense qu'il y a des solutions techniques à apporter, par exemple le fait que, de façon transitoire, procède à ce qu'on appelle un démembrement de la propriété. Par exemple, il y a le foncier, et alors c'est parfois un peu compliqué à concevoir, il y a le foncier d'un bâtiment, il y a le bâtiment en tant que tel. On peut très bien avoir une forme de cession temporaire du foncier à un organisme qui permettra d'apporter des fonds pour rénover, et qui par ailleurs pourra peut-être transformer les magnifiques garages, parfois avec des toits d'amiante d'ailleurs, qui peuplent encore nos arrière-cours, pour pouvoir optimiser un peu la valorisation de tout ça. C'est une boîte à outils.
Mmh.
Le propre d'une proposition de loi, c'est que c'est plus un signal d'appel qu'une solution en tant que telle.
Bien
évidemment,
sûr.
Une fois qu'elle passe au Parlement, on commence à travailler de façon beaucoup plus précise, et avec le gouvernement qui apporte une expertise. Mais je pense que ces mécanismes-là qui permettent d'apporter des fonds pour rénover, il y a une autre disposition qui vise à mettre un peu de pression à des propriétaires pour qu'ils entretiennent effectivement leur logement. Ça n'a fait pas une polémique parce que un certain nombre de personnes ont lu ça comme étant une sorte d'expropriation.
Oui, de mesures coercitives.
En effet, c'est une pression, mais c'est pas une mesure coercitive. Ce qui se passe, vous parliez des immeubles qui peuvent s'effondrer. Aujourd'hui, les mairies ont la capacité de faire des travaux d'office. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire les travaux pour sécuriser, ne serait-ce que pour éviter qu'il y ait des drames qui se produisent. Dans les faits, d'une part, elles peuvent pas faire ça n'importe comment. Il faut évidemment, il y a un cadre juridique pour le faire. Mais dans les faits, elles ne récupèrent que 46% des sommes qu'elles vont engager. Parce que dans ces cas-là, très souvent, les propriétaires sont d'une honnêteté limitée et s'arrangent pour pas être solvables. Et donc, dans les faits, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui paye et qui n'a pas forcément les moyens de payer. Je pense qu'à un moment donné, on peut avoir des systèmes, alors c'est encore une fois très technique, ce sont ce qu'on appelle des baux à réhabilitation. C'est-à-dire que ce soit un organisme qui temporairement prenne l'usufruit d'un bien, le rénove avec les loyers qu'elle va percevoir et ensuite le restitue au propriétaire. Moi, depuis que j'ai fait cette proposition, j'ai de nombreux témoignages de gens qui disent, en effet, il y a le propriétaire du logement qui est au-dessus de chez moi, il ne fait rien, il y a des fuites, il y a des moisissures, ça commence à attaquer les planchers, ça commence à attaquer les structures, et moi j'ai un bien qui est en dessous que je ne peux plus louer ou je ne peux plus habiter parce que celui d'au-dessus est trop dégradé. Donc je pense que tout ça, encore une fois, ce sont des éléments d'une boîte à outils qui doivent permettre d'apporter des solutions, parce que quand il y a un logement dégradé, ou un pavillon dégradé dans un quartier, c'est à peu près la même chose. C'est que, au bout d'un moment, si jamais il est récupéré par marchand de sommeil, si jamais on fait en sorte d'organiser quelque part cette dépréciation de la situation, cette dégradation de la situation, ça s'étend. Ça s'étend, et non seulement c'est le patrimoine, la valeur patrimoniale des biens qui est touchée, et les gens ont quand même des raisons d'y être attentifs, mais c'est même une situation d'ordre public, parce que très souvent, ça apporte des désordres. Il est rare que des bâtiments, quand on est sur un îlot indigne dans une commune ou dans une ville, dans une grande ville, il est quand même assez rare que tout aille bien sur le plan aussi bien sécuritaire que d'ordre public autour.
Donc on a bien compris que vous souhaitiez combattre contre l'inertie des propriétaires. Lorsque vous faites une proposition de loi dans ce sens, vous avez des objectifs à remplir en termes de chiffres?
Écoutez, d'une part, c'est pas tous les propriétaires.
Oui, bien sûr.
Non seulement c'est pas tous les propriétaires, mais quand j'avais fait ce rapport il y a quelques années, ce que j'avais remarqué, c'est que il y avait aussi des propriétaires qui étaient relativement démunis parce que c'est compliqué. Moi, je suis très favorable à ce qu'on favorise le fait qu'il y ait ce qu'on appelle une intermédiation, c'est-à-dire qu'on fasse en sorte que on confie son bien à des professionnels qui, parce que louer un bien, c'est pas si simple que ça. Et je crois qu'une partie de la vacance qui existe aujourd'hui dans ce pays, c'est tient aussi au fait qu'il y a des propriétaires qui pensaient pouvoir s'en sortir facilement en louant leur bien, puis après 2-3 locataires avec qui ça s'est pas bien passé, préfèrent le retirer du marché. Il y a le film Airbnb, mais il n'y a pas que ça. Donc, il s'agit aussi de protéger les propriétaires, en les incitant à faire des travaux, mais aussi en les accompagnant, évidemment. Il y a des tas d'aides qui existent, il faut les accompagner et faire en sorte que ce soit plus simple. Et puis, pour ceux qui sont autour, c'est les autres propriétaires qui sont dans une copropriété, pour protéger la valeur de leurs biens. Quel objectif? Je vais vous dire, quand j'ai fait ce rapport, il y a de ça maintenant 3 ans, 4 ans, on me disait, mais il y a... il y a à peu près 430 000 logements indignes dans ce pays. Alors je dis, ah bon, c'est beaucoup, c'est comment on a trouvé ça? Eh ben, c'est assez simple, c'est une technique au doigt mouillé, c'est qu'on a le parc privé potentiellement indigne. C'est quoi le parc privé potentiellement indigne? Ce sont des logements qui sont anciens et dont les occupants sont des gens qui sont en fragilité ou assez pauvres. Donc on se dit, cela est... potentiellement, ça peut mal se passer. Ce qui n'est pas faux, c'est pas stupide comme idée. Mais derrière, on se dit, il y en a 1 200 000 en France, à peu près, parce que ça, on sait le faire. On sait croiser ces deux données-là. L'administration dit, il doit bien avoir un tiers qui sont vraiment indignes. Donc ça fait à peu près 400 000. Les 30 000, j'ai jamais trouvé. Et puis la Fondation ADB Pierre dit, non, vous plaisantez, c'est pas un tiers, c'est la moitié. J'irais presque, on sait qu'il y en a beaucoup. Le seul chiffre qu'on ait qui soit véritablement fiable, c'est celui de l'INSEE par rapport au confort des logements et des logements inconfortables, c'est-à-dire n'ayant pas un minimum de caractéristiques. Et je peux vous garantir qu'on est très loin de la question de décence, c'est bien au-dessus. Il y en a à peu près 800 000, ça on le sait, c'est-à-dire qu'ils mériteraient d'avoir un niveau de confort qui soit rétabli, mais c'est pas l'indignité. Le nombre global, on s'en fiche un peu. L'important, c'est que à chaque fois qu'on est on a ces situations, la situation d'un marchand de sommeil qui prend un bien dans un immeuble qui le laisse pourrir pour pouvoir récupérer tout le reste en faisant fuir les gens par une pression aussi bien sanitaire que sécuritaire, il faut qu'on puisse intervenir et être là pour le coup répressif quand il y en a besoin. Il faut qu'on puisse accompagner les propriétaires occupants qui parfois sont un peu démunis par rapport à la situation avec des aides, qu'on puisse accompagner les propriétaires bailleurs et qu'on puisse garantir aux locataires de bonne foi et qui payent leur loyer normalement, qu'ils soient logés dans de bonnes conditions.
Merci Monsieur Vuitet, on a bien compris que vous êtes totalement investi dans cette mission et que on espère bien sûr que vous arriverez à des résultats probants. Je propose qu'on marque une pause avant d'aborder la suite. À tout de suite.
Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant, une machina, comme le disait ma mère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Les boulevards effrayants, les pavés de Clichy, le petit menuisier accompagné de ses amis. Et si c'était là-bas que je crierais mes démons, qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons. C'était la dernière chance,
un dernier rendez-vous. Les rêves c'est fatigant, mais moi je tenais le coup. Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines, et si c'était comme ça que la vie est plus belle. Comment c'est chez toi mon frère, pas si différent mon phare. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. C'est chez toi mon frère, pas si différent mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là mon frère.
IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
Vous êtes bien sur Radio IDFM dans l'économie en direct et ce matin je reçois Guillaume Vuittet, député de la deuxième circonscription du Val-d'Oise, Carolina Rodriguez et Philippe Salbert, chef d'entreprise en reconversion accompagné par l'association 60 000 rebonds. Guillaume Vuittet, dans vos missions, vous avez toujours en charge les questions liées à l'outre-mer. Et aujourd'hui, vous êtes le président d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur le coût de la vie précisément en outre-mer. Alors, moi, j'avais une question pertinente ou pas. Pourquoi faire appel à vous plutôt qu'à un député sur place pour ces questions?
C'est bon, la question, oui, elle peut interroger. Alors, je suis plus président parce que...
Ah, pardon, décidément.
Pour une raison simple, c'est que les commissions d'enquête sont des structures très qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont très normées, avec des règles très précises. Et dès lors que nous avons rendu notre rapport et qu'il a été adopté, la commission d'enquête se dissout quelque part. Et du
bien.
Coup, voilà, je suis l'ex-président. Mais c'était un travail tout à fait passionnant pendant les 6 mois qui viennent de s'écouler, que j'ai mené avec mon collègue de Martinique, Johnny Ajar. La tradition veut qu'il y ait dans le binôme président-rapporteur d'une commission d'enquête, quelqu'un qui soit issu de la majorité et quelqu'un qui soit issu de l'opposition. Ça permet d'équilibrer les choses et ça fonctionne très bien comme ça. Il se trouve que dans les élus de la majorité, je suis impliqué sur les questions ultramarines depuis maintenant quand même 5-6 ans. Et donc voilà, puis a priori, je ne me dispute pas avec tout le monde, donc c'est plutôt mieux pour présider une commission d'enquête de pouvoir arriver à des formes de consensus et de pouvoir parler avec les uns et avec les autres. Et puis c'est vrai que c'est un sujet que je trouve fondamental, alors qu'on pourrait y voir même une sorte d'intérêt électoral, parce qu'en fait, sur une région comme l'Île-de-France, je crois que c'est 800 000 personnes qui sont originaires des Outre-mer. C'est tout à fait conséquent. On est sur l'Hexagone, j'ai plus le chiffre exact. Et pour la petite histoire, j'avais pu vérifier par les lieux de naissance qu'il y avait davantage de d'ultramarins sur ma circonscription que d'habitants à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Voyez, donc comme quoi, c'est important. Mais ce sont d'abord des territoires d'une part où c'est la France. C'est la France. C'est aussi la France dans sa capacité à avoir une influence sur les zones régionales dans lesquelles ces territoires existent. C'est la France dans ce qu'elle peut apporter de plus fort. Et puis c'est la France dans ce qu'elle doit apporter aussi de solidarité. Ce sont des territoire qu'on a considéré avec beaucoup de comment dire ça, je dirais pas de mépris parce que je n'aime pas ce terme qui est trop un terme
peut-être
polémique.
Oui, de d'indifférence, hein.
En tout cas on n'a pas prêté une attention suffisante et je sais qu'une partie de la classe politique, une partie même peut-être de nos concitoyens considèrent que parfois ce sont des territoires un peu les danseuses de la République. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois que ça fait partie de l'identité de la France, ça fait partie de notre influence sur le pays, et puis ce sont des citoyens qui se sentent français et qui ont droit à notre solidarité de toute la nation comme tout comme les citoyens comme des quartiers, comme les citoyens des zones rurales qui se sentent parfois un peu abandonnés, tous les citoyens de ce pays ont droit à la solidarité nationale.
Alors moi j'ai parcouru ce rapport d'enquête et découvert que le coût de la vie c'était un problème historique dans ces territoires.
Ah tout à fait. Grosso modo, on considère qu'il y a entre 20 et 40% selon les territoires de surcoût de la vie. Sachant qu'il y a un effet de ciseau, c'est qu'il y a une vie plus chère avec des revenus qui sont moyennement bien inférieurs. Mmh. Même la Réunion...
Ce qui augmente le delta
Ce qui fait qu'il y a un écart qui est considérable. 36% des Réunionnais sont... qui a un territoire qui est... sans doute le plus, je crois que c'est le produit intérieur brut le plus fort, sont encore sur le seuil de pauvreté. Donc on a un écart qui est très fort, qui s'explique par plein de raisons, entre autres le fait qu'on est quand même sur des petites économies en taille insulaire, éloignées, donc tout ça n'est pas simple. Je ne pense pas qu'on puisse arriver là-dessus à se dire qu'on peut avoir exactement la même structure des prix que sur l'Hexagone pour une raison simple, c'est que évidemment le stockage n'est pas le même, il faut bien que les produits soient livrés, c'est pas forcément un marché gigantesque, bon ça c'est pas, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Il y a d'autres choses qu'on a pu découvrir, qu'on cherchait aussi, c'est est-ce qu'il n'y avait pas des abus de position dominante de tel ou tel acteur ?
Absolument, oui.
Là-dessus, j'ai un avis un peu divergent de mon rapporteur. Lui considère qu'il y a en effet des positions dominantes dont parfois...
Des positions hégémoniques, un
hégémoniques
petit peu.
Hégémoniques et ouais. dont certains acteurs abusent et que ça a un effet sur le prix. Je suis d'accord avec le fait qu'en effet, il y a des positions dominantes et que oui, ça permet à certains acteurs d'avoir une maîtrise du marché. Je ne suis pas sûr que c'est toujours un effet sur les prix. Ça, des fois, c'est le cas. Des fois, ça, c'est plus contestable. Je pense aussi qu'il y a un problème de normes. Ça a l'air d'être tout bête, mais on a parfois des normes qui sont valables sur l'Hexagone qu'on impose sur ces territoires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de normes sur les territoires ultramarins, évidemment. Mais enfin, je vais vous donner un exemple qui est réunionnais, encore une fois. C'est qu'on ne peut pas construire quand la pente de la pente du terrain est supérieure, je crois, à 12% pour pouvoir faire monter les véhicules de secours en cas de gel.
Ah oui, ouais, d'accord.
Ce qui est une norme hexagonale. Comment vous dire ? C'est un territoire qui est un volcan et nous sommes... Le gel, c'est pas tous les matins. Donc voilà, donc là c'est caricatural, mais pour parler aussi des matériaux, on parle parfois en objet donc tout ça fait que
ça illustre bien,
bien, et tout ça fait que en effet on a une économie qui reste des territoires ultramarins qui reste tournée vers l'Hexagone et vers l'Europe, alors même qu'elle pourrait avoir un débouché et des ressources régionales beaucoup moins chères. Et aujourd'hui, je pense que ça c'est un élément fort de des prix. Après il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes d'accès, donc on a travaillé sur tout ceci. Sujet-là. Et il y a aussi des problèmes de revenus, parce que il y a sur les territoires ultramarins une surrémunération des ensembles d'acteurs publics, de salariés du secteur public, pour prendre en compte la vie chère. C'est historique et en plus ça soutient la demande locale, donc on ne va pas non plus jouer aux apprentis sorciers avec ça. Par contre, ça déforme un peu la structure des revenus qui fait que les personnes qui ne sont pas là-dedans sont des personnes qui par contre ont très peu de revenus. Je pense en particulier aux retraités qui n'ont pas suffisamment accès aux mesures de solidarité. Donc il y a aussi un accès aux droits qui doit s'accompagner. Et puis moi je crois que la crise sanitaire et aussi d'ailleurs la crise internationale avec l'Ukraine ont montré que la mondialisation heureuse où tout circulait dans tous les sens de façon quasi instantanée, ça ne marchait pas. Et on observe une recomposition du commerce mais aussi des relations entre les pays à un niveau régional, ce qu'on appelle un niveau régional. Je pense que sur chacun de leurs espaces régionaux, que ce soit les Caraïbes pour les Antilles françaises, que ce soit le canal du Mozambique et toute la zone de l'océan Indien pour la Réunion, que ce soit sur le Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie et avec la Polynésie française, nous avons des atouts. Nous avons des atouts sanitaires, nous avons des atouts en termes de formation, nous avons des atouts en termes d'état de droit, parce que l'administration française est présente sur ces territoires et que l'état de droit est respecté. Alors il y a des endroits où c'est compliqué. La Guyane, c'est compliqué avec une migration clandestine massive et avec les orpailleurs illégaux qui créent une situation sécuritaire. Mayotte, c'est encore plus compliqué avec les Comores voisines. À chaque fois, il y a des complexités, mais malgré tout, je suis persuadé que nos territoires ont les moyens d'être les leaders à bien des titres sur leur espace régional, d'être des plateformes de services qui permettent à ces zones régionales de fonctionner, et je crois réellement au potentiel de ces territoires pour eux-mêmes et pour la France en son ensemble.
Bien sûr, oui, ça fera ricochet. Donc il y a un ensemble de d'outils qui sont mis en place pour ces mesures.
Alors une commission d'enquête aboutit à un rapport, elle fait des propositions, on verra bien celles qui sont retenues, certaines des propositions du rapporteur qui s'est profondément investi. Hein, au-delà de l'amitié, il y a aussi le respect du travail qui a été fait. Sur lesquels on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, mais ça c'est la vie. Et moi-même j'ai fait une vingtaine de propositions, lui on a fait 70 je crois de mémoire. Et on les propose au gouvernement de façon à les mettre en œuvre. Un des points par exemple sur lequel nous sommes d'accord pour prendre un point d'accord, c'est que typiquement, il faut un renforcement considérable des moyens à disposition de l'administration pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles sur place.
Oui.
Et donc,
c'est ce qu'on disait au départ.
Il faut. Et puis, je pense qu'il faut demander aux préfectures de faire des tableaux de correspondance des normes qui permettent aux territoires, aux entrepreneurs locaux de pouvoir s'approvisionner à proximité.
Une meilleure gestion des.
C'est-à-dire, si vous devez importer des fers à béton du Havre, même si j'aime beaucoup le Havre, mais de produits sur l'Hexagone, alors que vous pouvez en avoir en Afrique du Sud, bah oui, c'est pas malin, quoi.
Bien sûr.
C'est possible. Alors, ce sont les mêmes. Donc, il y a des tables de correspondance à faire pour pouvoir, et puis on pourra adapter les normes à ce qui est. J'ai tellement d'exemples que là, pour le coup, je ne veux pas complètement accaparer l'antenne pour ça.
Donc, une affaire à suivre.
Absolument.
Alors, dernier sujet, Guillaume Vitet, les Jeux Olympiques, hein, un véritable défi pour la France et ses aspects sécuritaires dont vous avez été aussi le rapporteur.
Oui.
Là, je dis pas de bêtises.
Non, c'est tout à fait juste, mais je n'ai pas de bêtises jamais. Non, j'ai juste complètement.
Non. Alors, donc, si j'ai bien suivi aussi, il y a une loi adoptée et promulguée après des échanges fructueux.
Alors, c'est une loi complexe. Et qui porte sur les Jeux Olympiques, évidemment, et qui vise à en garantir la sécurité. On va aller, il y a des tas de sujets. Oui. Il y a un sujet sur les taxis, qui est un sujet important, hein, pour faire en sorte qu'il y ait une flotte de taxis sur la plaque parisienne qui puisse accueillir les personnes en situation de handicap qui soit suffisante. Et je pense qu'on est arrivé à un bon accord là-dessus. Il y a eu des choses sur les scanners millimétriques qui permettent de vérifier qu'il n'y ait pas d'objets illicites sur les personnes, où là ça a été un débat plus pittoresque parce que ces scanners parfois permettent d'avoir des détails un peu intrusifs.
Oui.
Dans les images, bon, évidemment c'est garanti pour tout ça, mais l'essentiel de la loi portait, et des débats portaient sur le fait d'avoir un usage des images captées aux alentours des sites de sportifs ou même des manifestations majeures qui sont autour de ça et qui seraient des images qui seraient analysées par des algorithmes. Et c'est la première fois qu'on légifère sur l'usage de l'intelligence artificielle dans des questions de maintien de la sécurité. Alors je pense qu'il y a eu des débats très forts, il y a eu une sorte de soupçon, j'y reviendrai juste après, qui était un peu permanent et qui rendait ces débats complexes, mais d'une part il faut rassurer vos auditeurs, on est sur un système totalement encadré avec des cas d'usage très précis qui vont être retenus. Par exemple, un début d'incendie, comment le repérer? Par exemple, un mouvement de foule, comment le repérer? Par exemple, une intrusion, là où les gens n'ont pas raison d'être, comment les repérer? Et avec des données, les big data qui, d'une part, ne sont pas individualisables, il n'y aura pas de reconnaissance faciale, on ne va pas chercher si telle personne est là ou pas. Et ensuite, on aura des conservations de données, parce que c'est ça aussi qui est important, qui seront très limitées dans le temps et qui ne permettront pas d'avoir vos images qui circuleront pendant des années et des années sur Internet. Tout ça est parfaitement
okay.
Encadré. Ce qui est important là-dedans, c'est de savoir à quoi ça sert. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais j'ai auditionné plus de 50 personnes, on a fait beaucoup d'auditions pour, y compris des opposants farouches à ce système, et parce que c'était important d'entendre aussi leurs arguments qui méritent d'être discutés. C'est une question sensible, hein, le fait qu'il y ait la capacité d'analyser des images, c'est tout sauf neutre.
Oui, parce que je voudrais insister sur ce que vous dites. Au fond, le plus important, c'est la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public et le respect des libertés individuelles.
Absolument, c'est vraiment la ligne de crête qu'il faut trouver, et en sachant qu'on ne peut pas, c'est la définition même, il faut que les restrictions de liberté publique soient proportionnées à l'impératif de sécurité collective, et c'est vraiment cet équilibre que nous avons voulu avoir. Et cet équilibre, en fait, le vrai débat que moi j'ai constaté avec les uns et les autres, il y a ceux qui disent, un, vous nous dites que c'est pour les JO, mais en réalité, vous voulez pouvoir contrôler les manifestations,
pour la suite,
les spectacles, etc. Et un jour, vous passerez forcément, et c'est la deuxième critique, il y a l'intention cachée, la deuxième critique, c'est le toboggan. C'est de dire, oui, vous nous dites, là, aujourd'hui, il n'y a pas la reconnaissance faciale, mais demain, vous nous préparez à le faire. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est que, par exemple, la glorieuse finale de la Champions League, c'est comme ça qu'on dit ça, où il y a eu quelques bousculades et qui ont un petit peu défrayé la chronique et on n'est pas sorti grandi de l'histoire, aurait pu être évitée si jamais on avait mis en place ces systèmes. Et pourquoi ? Parce que l'œil humain ne voit pas et dans ce cas-là, on aurait pu avoir une alerte toujours contrôlée par l'être humain, c'est jamais la machine qui décide, pour téléphoner qui est la SNCF, qui est la RATP, en disant essayez de retenir un peu vos rames, il faut qu'on fasse écouler les gens. Et c'est normal. La bousculade meurtrière de Séoul, où là, les opposants me disaient, mais regardez, là-bas, il y avait de l'intelligence artificielle sur les caméras. C'est vrai, mais pas ce soir-là. C'est arrêté ce soir-là.
Donc ceci explique cela.
Alors, je le dis avec toutes les réserves possibles, mais je pense qu'il y a même de situations où on aurait pu éviter les attentats parce que l'algorithme est très bête. C'est ça qui vient avec lui, c'est qu'il est tout à fait stupide. C'est qu'il ingère des gigaoctets d'images pour voir ce qui est normal. Et quand il y a un truc qui est anormal, il dit, là, c'est normal. Et après, c'est l'être humain de réagir par rapport à ça. Bizarrement, un terroriste, il va pas mettre un sac avec une bombe très rouge sur un mur très blanc dans un endroit très dégagé. Il va prendre sac de la même couleur,
bien gris,
au milieu d'une foule. Et le repérer avec un œil humain, c'est quasiment impossible, on le sait. L'algorithme, lui, sait faire ça parce qu'il repère que par rapport aux gigaoctets d'images qu'il a de ces situations qu'il connaît parce qu'il y a eu des tas de fois, là, il sait que c'est anormal. Donc, nous avons bien un usage qui permettra de voir tous ces petits détails-là. Après, on est dans ce qu'on appelle une expérimentation. Alors, là aussi, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Ça ne nous transforme pas en cobayes, au sens législatif, c'est-à-dire qu'on crée une règle à titre dérogatoire pour voir si elle est plus efficace que la règle actuelle, en espérant qu'elle le soit, évidemment, sinon on ne le ferait pas. Donc, on verra bien au bout de la période si c'est plus efficace pour pouvoir éventuellement relégiférer en encadrant de nouveau tout ça. Est-ce que ça peut ne pas être le cas ? Oui, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des faux négatifs. C'est-à-dire de faire en sorte que l'on dise, au fait, là-dessus, il y a un problème, alors que c'est un parapluie qui s'ouvre. Ou alors que, simplement parce que quelqu'un a oublié son tote bag avec son sandwich. On doit tester ça en permanence.
Pour éviter de tout bloquer.
Si jamais on déclenche une arrivée d'une patrouille de police à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui
prend son sac avec son sandwich. Comme on le fait sur la SNCF en ce moment, quand il y a un bagage oublié.
On a bien quelque chose qui doit aider, qui doit rendre plus efficace.
Et rendre fluide.
Plus fluide, voilà.
Voilà, parce que je rappelle quand même que ça va être un événement hors norme, 13 millions de spectateurs sur plusieurs sites, et puis notamment la cérémonie d'ouverture à ciel ouvert, qui justifiera à elle seule le déploiement de moyens de sécurisation exceptionnels.
Je pense qu'on a pris, véritablement, on a pris toutes les garanties pour que ce soit fait et bien fait. L'usage des algorithmes nous aidera, aidera les forces de sécurité, nous protégera. C'est un des éléments.
Bien sûr, parce qu'il y a plein d'autres.
Évidemment, tout le reste est en œuvre. Les services de renseignement, le fait de l'accès au site, le fait qu'il y ait des drones maintenant qui pourront surveiller. Donc on est sur un dispositif extrêmement complet. Et dedans, il y a cela parce que ça nous aide.
Merci Guillaume Huitet d'être venu partager avec nous votre quotidien d'élu et puis bravo pour tout ce travail accompli.
Merci beaucoup.
Écoutez, à vos prochaines missions, j'espère. Dans quelques instants, la suite de notre émission, on marque une pause et juste après, on retrouve mes deux autres invités, Carolina Rodriguez et Philippe Salbert. À tout de suite.
Diamond light, lover boy. a smooth operator.
L'économie en direct, une coupure un peu franche. C'est toujours l'économie en direct et je suis toujours en compagnie de Guillaume Vitet, député de la 2e circonscription du Val d'Oise, Carolina Rodriguez et Philippe Salbert, chef d'entreprise en reconversion, accompagné par l'association 60 000 rebonds. Alors, peut-être avant de vous interviewer l'un et l'autre, on peut peut-être rappeler que 60 000 rebonds, c'est une association qui s'est donnée pour mission d'aider les entrepreneurs en post-liquidation à se reconstruire personnellement et à rebondir vers un autre projet. Une association créée en 2012 par Philippe Rambaud, un entrepreneur ayant connu la faillite et nommé... Donc, il a nommé cette association ainsi parce que c'était pour faire référence aux 60 000 entreprises. 60 000 entreprises contraintes de déposer le bilan chaque année. L'association 60 000 rebonds propose d'accompagner sur 2 ans les dirigeants et dirigeantes en situation post-faillite. Aujourd'hui, c'est une structure nationale articulée par département reconnu d'intérêt national depuis 2016. Vous, Carolina Rodriguez, donc vous êtes issue de l'ESTP, vous avez un master en maîtrise d'ouvrage et gestion immobilière. Vous avez récemment poussé la porte de cette association.
Oui, tout à fait.
Donc, que s'est-il passé?
Donc, j'avais ouvert un coworking juste avant la Covid.
Oui.
Et donc, évidemment, ça, c'était pas le bon moment. Et j'ai pu être accompagnée très tôt. Dans ma procédure de liquidation, dans la mesure où je ne suis pas allée en redressement judiciaire.
D'accord, ouais, c'est déjà important.
Voilà, je m'y suis pas prise assez tôt, mais parce qu'il y a, il existe d'autres procédures bien en amont. Moi, je suis allée en procédure de sauvegarde, qui est avant d'être en... Je n'ai plus le mot en tête, en impossibilité de payer. Et ce qui m'a permis, bon, déjà pour arriver en procédure de sauvegarde, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement avec le tribunal de commerce et avec un juge à la retraite, ce qui m'a permis de mettre en place une procédure vraiment adaptée à mon besoin. Jusqu'au moment où j'ai pris la décision d'arrêter, puisque j'estimais que c'était surtout avec la guerre en Ukraine, où j'ai estimé que ça... le jour où cette guerre a éclaté, pour moi, il était évident qu'on allait face à une grande... Vraiment faire face à une crise, on avait une guerre encore plus importante puisqu'on avait la guerre aux portes de l'Europe. Et donc il valait mieux arrêter plutôt que d'aller m'acharner devant un mur. À partir de ce moment-là, je me suis faite accompagner par Second Souffle.
Oui.
J'ai eu des entrepreneurs, des clients et des fournisseurs qui ont souhaité reprendre l'activité avec moi à la tête. J'y croyais plus, donc j'ai choisi d'arrêter, vraiment d'aller à la liquidation, parce qu'en fait, oui, quand on se dit que on va faire face à une crise énorme, ça va être très compliqué.
C'est pas la peine d'en rajouter une couche.
Voilà, j'avais pas du tout envie d'en rajouter une couche. Et après cette étape-là et l'accompagnement de Second Souffle, j'ai rejoint 60 000 rebonds. Qui m'a permis de repartir. Alors 60 000 rebonds nous accompagne avec un coach et un parrain. Le coach, ils ont toute une équipe de coach et le coach est défini en fonction de notre besoin, de nos personnalités et le parrain également. Et ce parrain est généralement quelqu'un qui a aussi vécu
le même problème. Mais donc il est bien placé pour savoir quel accompagnement il faut faire.
Voilà, tout à fait.
Carolina, avant de vous demander sur quel projet vous allez rebondir, je vais peut-être donner la parole à Philippe Salbert pour que vous nous racontiez aussi un petit peu votre parcours.
Oui, donc moi je concevais des dispositifs médicaux pour boucher ou déboucher les artères. Et le problème, c'est qu'actuellement dans le médical, avec il y a un changement de normes qui fait qu'en recherche, il y a de moins en moins d'investissements, puisque tout est concentré sur... ces nouvelles normes nous obligent à mettre en place énormément de dossiers.
Vous voulez parler au niveau de la recherche et développement ?
Oui, la recherche et développement. Donc j'étais contraint de cesser mon activité. Et c'est vrai que c'est quelque chose de violent parce qu'on perd tout. Et donc moi, c'est une de mes connaissances qui m'a indiqué 60 000 rebonds. Qui permet en fait parce qu'on a vraiment un sentiment d'isolement et donc c'est vraiment intégrer l'association, donc en fait on dépose un dossier, après on c'est gratuit pour le chef d'entreprise. Et donc on a un coach et un parrain qui est attitré et des réunions mensuelles, on échange avec d'autres chefs d'entreprise en rebond qui nous permet en fait d'éviter d'être dans l'isolement, parce que c'est vrai que quand on se prend ça
en pleine figure,
c'est violent. C'est pas évident, parce que généralement en tant que chef d'entreprise on a beaucoup d'activités,
de chef d'entreprise est intense,
oui, complètement.
On se retrouve du jour en main chez soi et qu'on perd tout,
on tourne en rond,
jusqu'à son numéro de téléphone en fait, on perd. Et donc ça fait du bien d'échanger avec des gens qui ont vécu la même chose que nous. Et donc on a un coach qui nous accompagne, on a besoin de se recentrer sur le rebond, justement, qu'est-ce qu'on veut faire de notre avenir en mettant un peu de côté ce qui s'est passé dans le passé. Et après notre parrain nous permet aussi d'avoir un nouveau réseau pour essayer de rebondir sur une nouvelle activité.
Un nouveau projet.
Et ce qui est bien dans cette association, c'est que on a aussi des groupes de travail qui nous permettent de nous recentrer sur ce qu'on veut faire. Par exemple, si vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau, ou si vous voulez être salarié, puisque quand on était entrepreneur, mentalement, c'est pas évident de se retrouver salarié aussi.
Bien sûr.
Et après, ce qui est pas facile, c'est qu'on se retrouve chômeur sans indemnité, sans rien, sans revenu.
D'entreprise n'a aucun droit, donc c'est...
Non seulement on n'a aucun droit, mais on est coupable. C'est-à-dire que quand vous êtes gérant, vous êtes coupable. Pour n'importe quelle raison que vous avez fermé votre structure, de votre faute, pas de votre faute, à cause du Covid ou pas, vous êtes coupable. Point par, vous perdez tout, vous avez le droit à rien. Et donc c'est bien d'avoir la bienveillance de cette association qui nous permet d'échanger entre anciens entrepreneurs. Il y a même des entrepreneurs au sein de cette association qui décident de recréer une structure, et donc ça fait vraiment du bien mentalement. On a des réunions mensuelles, on a des webinaires sur comment trouver un plan de financement, enfin c'est vraiment
comment revenir au salariat.
Oui, absolument.
Et donc, c'est vraiment, il y a une bienveillance. On rencontre des gens qui nous soutiennent, en fait.
Ne serait-ce que le fait de rompre l'isolement, je crois que c'est important.
Oui, c'est surtout ça.
Vous avez parlé de culpabilité, et je crois que vraiment un des leitmotifs de 60 000 rebonds, c'est de faire évoluer le regard sur l'échec de notre société. Aux États-Unis, avoir un échec sur son CV, c'est presque recommandé, parce que ça prouve qu'on est capable de rebondir.
Oui, tout à fait. C'est vrai.
Alors qu'en France, on évite montrer du doigt quand on a un échec.
Oui, stigmatisation, c'est-à-dire que vous êtes en échec. Ouais. Et encore une fois, si vous êtes entrepreneur, si vous fermez votre structure, c'est que vous avez fait une erreur.
Mais ça peut être aussi une facture non payée qui met la société en difficulté.
Peut-être pas forcément de votre faute, de
trésorerie, bien sûr. Oui,
c'est pas forcément de votre faute. Et puis vous vous sentez seul. Donc c'est vraiment cette association. Je n'avais pas connaissance. C'est une personne qui m'a dit tu devrais intégrer cette association.
Pour vous, elle a été salvatrice.
Oui, tout à fait, oui.
Philippe Salbert et Carolina, je vous propose qu'on fasse une pause parce que je crois que monsieur le député doit partir. On fait une pause, puis après on écoute vos projets en rebond. Merci monsieur le député de votre visite, et puis à très bientôt.
Je vous
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
Ce matin, l'économie en direct sur Radio IDFM était présent. Guillaume Vitet, député de la deuxième circonscription du Val-d'Oise, qui a dû partir vers un autre rendez-vous. Mais toujours avec nous, Carolina Rodriguez et Philippe Salbert, chef d'entreprise en reconversion, accompagné par l'association 60 000 rebonds. L'occasion pour nous de découvrir toute l'étendue de cette formidable communauté de bénévoles reconnue aujourd'hui d'intérêt général. Alors Carolina, vous avez dû malheureusement arrêter votre activité de coworking. Aujourd'hui, vous êtes sur quel projet, Carolina ?
Alors, je travaille surtout sur des missions en tant que responsable administrative ou financière, contrôleur de gestion ou directrice administrative et financière.
Donc en tant que salariée ?
En tant que salariée ou en tant qu'indépendante.
D'accord, d'accord. Et avec 60 000 rebonds, vous en êtes où ?
Avec 60 000 rebonds, j'en suis, comme Philippe vous l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui apporte déjà les réunions, les échanges. Mmh. Il y a depuis un moment, ils ont commencé aussi à organiser des événements en soirée, des rencontres plus poussées. Par exemple, nous avons un événement avec le MEDEF à Paris au mois d'octobre, ce qui nous permet vraiment de rompre l'isolement, de porter un autre regard sur notre aventure.
Le MEDEF Paris ou Val-d'Oise ?
Paris.
D'accord, oui, très bien. Et donc vous considérez que c'est vraiment comme l'a dit Philippe, une association qui est nécessaire pour ce genre de situation.
Oui, c'est une association qui est nécessaire. Elle nous évite, elle permet de rompre l'isolement. On est en train de répéter les mêmes mots en permanence.
C'est important.
Et c'est surtout, c'est rompre l'isolement, c'est être accompagné, c'est avoir des retours d'expérience, c'est se rendre compte, comme Philippe, pour qui ça a été beaucoup plus dur que pour moi, qu'il n'est pas le seul à l'avoir vécu de manière aussi violente. Pour moi, c'est plutôt l'inverse, c'est de me rendre compte que moi, finalement, ça s'est passé dans une douceur extrême par rapport à la violence que d'autres ont eue, puisque le lendemain de mon passage au tribunal a commencé pour moi tous les appels de mes clients, fournisseurs, tous les entrepreneurs pour voir comment j'allais. Et le jour où la porte a été fermée, puisque en plus, comme étant un coworking, je n'ai pas eu à fermer le jour où je suis passée devant le tribunal. J'ai eu en plus un laps de temps pour préparer la fermeture.
Oui, parce que vous aviez su anticiper.
Parce que j'ai su anticiper, parce que j'avais des clients en place qu'il fallait quand même que je... et des entrepreneurs. Terminé. Donc, je ne pouvais pas dire aux entrepreneurs, prenez vos affaires, partez tout de suite en courant. Donc, je... quand même aménager, essayer de trouver, faire tout un travail pour accompagner ces entrepreneurs pour qu'ils ne soient pas à la rue mais qu'ils aient quelque chose le jour où je ferme. Et le jour où j'ai fermé, en effet, pendant la semaine qui a suivi, j'ai reçu tellement d'appels que c'est là où j'ai commencé à tomber.
Oui. Parce que... oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça vous a mis le bourdon.
Moi, j'ai eu l'effet inverse. Moi, je suis descendue après la fermeture parce que c'est là où comment tu vas. Mais je passais mon temps à répéter, je répétais au moins 3 à 4 fois la même chose par jour. Donc là, ça devenait plus, ça devenait assez violent. Ouais. Mais finalement, c'est qu'on se rend compte qu'on a chacun une histoire, c'est la nôtre, on l'a vécue de manière différente. Et pour ceux qui l'ont vécu vraiment très violemment, puisque certains vont jusqu'à raconter qu'ils ont eu un mandataire et un administrateur. Moi, j'ai pas eu d'administrateur. J'ai été moi-même administrative de la structure. Je n'ai eu qu'un mandataire que j'ai moi-même choisi à l'origine.
Ah oui.
Donc
c'était très confortable.
Donc voilà, moi j'étais dans un échange très fluide. Mes fournisseurs me soutenaient, alors que d'autres entrepreneurs, je crois que Philippe est dans ce cas, où l'administrateur verrouillait tout, où les fournisseurs exigeaient qu'on paye, qu'on les paye avant même d'avoir livré.
Oui, parce que probablement que les enjeux financiers n'étaient pas les mêmes. Hein. Je pense que Philippe, vous me disiez, excusez-moi Carolina, Philippe, vous me disiez avant l'émission que vous aviez investi dans des machines très chères. Hein.
Moi, dans mon domaine, j'avais un parc d'équipements très important que j'avais pu avoir grâce au Crédit d'impôt recherche, qui est vraiment un très bon système, une très bonne aide. En fait, c'est vraiment dans les sociétés comme la mienne, c'est vraiment très très bien. Après, moi, la différence, c'est que moi, je travaille beaucoup avec les étrangers. Tous mes fournisseurs, j'ai aucun fournisseur français. En fait, et puis comme moi, j'avais un parc d'équipements important, j'ai eu un liquidateur qui était nommé. Donc c'est une violence. Enfin, vous perdez tout en fait. Donc c'est pas facile.
Et vous n'aviez pas eu, vous n'aviez pas la solution d'un repreneur avant de déposer.
Non, parce que moi, mon domaine, c'est vraiment une niche,
très spécialisé.
Et puis après, il y a dans le domaine médical, les sociétés ont leur propre service de recherche. Donc c'est en fait ma structure n'était pas intéressante à reprendre et je pouvais pas la vendre en fait.
Oui.
Donc après, c'est vrai que c'est là où l'association vient en aide. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent se rapprocher avec les tribunaux justement, parce qu'en fait, quand vous êtes chef d'entreprise, moi personnellement, j'avais pas connaissance de cette association. Et c'est vrai que là, on parlait de... Vous disiez que le nom vient des 60 000 entreprises qui ont déposé le bilan.
Qui déposent le bilan chaque année.
Actuellement, en France, là, je regardais tous les mois, c'est à peu près 4 800 sociétés qui disparaissent. Mais en fait, quand vous êtes gérant ou que vous dirigez une société, vous n'avez pas connaissance...
Absolument, on n'a pas conscience.
De tout ça, en fait.
Il faut aller chercher l'information.
C'est vrai que le but de l'association est aussi de se faire connaître auprès de tous les gérants, savoir que quand vous déposez le bilan, vous n'êtes pas seul et on peut vous aider. Donc ça, c'est
bien sûr,
c'est vraiment bien. Après, c'est vrai qu'on a tous des parcours différents. Pour ma part, donc moi, j'ai le soutien de mes enfants, enfin de mes amis,
votre famille, de votre entourage.
Ouais, voilà, et puis
c'est déjà important.
Oui,
parce qu'il y a une... Je sais que... Alors, nous, on est en lien aussi... Enfin, chez IDFM Radio, on est en lien aussi avec le tribunal de commerce, qu'on reçoit régulièrement, avec lequel on a reçu son président avec 60 000 rebonds. Ils sont très... Ils ont une vraie bienveillance à ce niveau-là.
Oui, au tribunal,
et puis, il y a l'association APESA qui vient en aide psychologique pour les personnes qui sont vraiment déprimées et qui pourraient passer... Enfin, qui auraient des envies de suicidaire, quoi.
Oui, mais c'est ça aussi dans l'association où qu'on échange entre entrepreneurs. C'est vrai qu'on a tous des parcours différents, on vit les choses différemment, et c'est vrai que ça fait du bien de parler, d'être confronté aux autres, et puis de rompre la solitude professionnelle.
Oui, qui est vraiment peut-être la pire de tout, cette solitude, parce qu'on ressasse et on est dans une spirale négative.
Et surtout, il redonne confiance. Et puis, il y a vraiment ce réseau rencontre d'autres personnes.
Il porte sur nous et sur l'échec un regard bienveillant.
Absolument.
Pour moi, la fermeture du coworking n'est pas un échec. Pour moi, ça a été vraiment la plus grande aventure de ma vie. Quand on
arriver à en faire un point positif.
Pour moi, ça, dès le début, avec la fermeture, ça a été un point positif puisque c'est moi qui ai décidé. Mais l'accompagnement du coach est aussi là pour ça et du parrain, nous faire comprendre qu'on peut porter un regard différent sur les choses.
C'est ça.
En
effet. Notamment, c'est ce que je disais, c'est le regard sur l'échec,
c'est ce que j'allais dire.
Plus indulgent avec soi-même.
On est formaté depuis l'école primaire, avec le système de notes, avec le système qui n'est pas un système expérimental de notre éducation, à aller sur, à vivre une mauvaise note comme un échec et pas comme
Oui, c'est juste une évaluation et puis
et pas
voilà,
comme juste une évaluation qui signifie qu'il faut qu'on reprenne le sujet et puis c'est tout. On n'a pas ce regard-là, contrairement aux États-Unis où avoir un échec, ça veut dire savoir rebondir.
Absolument.
Et on est mieux accueilli parce que tout simplement on vous demande de, on considère qu'on a analysé son échec, qu'on est capable de repartir. En France, on a plus tendance à stigmatiser.
Complètement.
Mais c'est aussi la façon que nous avons aussi de nous présenter et de raconter cette histoire.
Bien sûr. Et c'est là où 60 000 bons vous aident à raconter l'histoire autrement.
Voilà.
Y a le fameux livre qu'on cite aussi régulièrement de Charles Pépin, qui, je sais, est impliqué avec 60 000 rebonds, Les vertus de l'échec. Vous, Philippe Salbert, donc vous avez aujourd'hui, vous êtes consultant.
Oui, donc je suis consultant toujours dans le domaine médical pour accompagner de par mon parcours, j'ai plusieurs casquettes en fait. J'ai fait la production, la recherche, la qualité affaire réglementaire, et puis de la métrologie. Et donc, ma première mission était pas du tout dans le domaine médical, c'était dans la métrologie en fait. C'est un domaine qui me passionne. Qui me passionne. Moi, j'en ai toujours fait, mais ça me passionne. Et puis, ça me permet aussi de voir des choses. Différentes en fait. Et donc, je suis consultant à la fois, je recherche à la fois des sociétés dans le domaine médical pour les aider à concevoir leurs produits, mais en France c'est assez timoré à l'heure actuelle, mais aussi surtout actuellement en métrologie sur accompagner les sociétés à faire des calculs d'incertitude sur leur équipement, à bien gérer le parc pour aider à avoir une qualité de produit.
Oui, pourtant ça pourrait rentrer dans les normes RSE dont on parle tant.
Mais c'est normalisé, en fait partie, justement, parce que autant il y a des domaines où il n'y a aucune norme, il n'y a rien, mais dans le domaine médical ou dans le domaine technique, tout est vraiment normalisé, on doit respecter énormément de procédures. C'est là-dedans, il y a beaucoup de travail actuellement. C'est ce qui occasionne aussi dans les dispositifs médicaux, il y a énormément de produits qui font disparaître justement parce que les normes font que pour pouvoir vendre maintenant, il faut redéposer des dossiers, ce qui occasionne énormément de frais en fait, ce qui fait que la recherche est mise de côté actuellement.
D'accord.
Et c'est pour ça que je me concentre plutôt dans les qualités à faire réglementaires dans mon domaine. Et j'essaie d'utiliser mon réseau pour trouver dans mon domaine, et puis en métrologie aussi pour accompagner des sociétés à gérer leur parc.
Écoutez, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite de pouvoir trouver des missions ou d'un travail dans vos domaines de compétences. Carolina, donc vous, est-ce que vous envisagez de recréer une entreprise malgré tout? Vous avez ça en tête ou c'est fini?
Alors, dans l'immédiat, non, mais ça ne veut pas dire que... L'idée est toujours là, c'est quelque chose d'intense. Donc... À la limite, je dirais, il faut que tout le monde le vive.
Oui. Donc,
c'est quelque chose de vraiment très riche, même si on finit par une liquidation, c'est quelque chose de tellement riche. Je crois que c'est quelque chose qui porte vraiment, qui donne un sens à nos vies quelque part à un moment.
C'est vrai qu'on a toujours l'image d'un chef d'entreprise. Enfin, les gens ont toujours, quand on parle de chef d'entreprise, l'image d'un grand patron qui dirige.
Oui, le 440.
Alors que, en fait, moi, j'ai des amis qui sont chefs d'entreprise. En fait, il y a énormément de. Enfin, Oui, la France silencieuse,
le tissu économique, c'est voilà, les PME, TPE.
On a des chefs d'entreprise, c'est des entreprises, on travaille avec des gens, ça devient des amis, comme une petite famille, en fait.
Être chef d'entreprise, la seule différence avec le salariat, c'est qu'on se crée soi-même ses collègues. Alors que quand on est salarié, nos collègues nous sont imposés par la structure. Et quand on est chef d'entreprise, on choisit nous-mêmes nos collègues, mais on est de toutes les façons aussi dans une structure.
Bien sûr, bien sûr.
Il existe. Oui, absolument. Voilà, on n'est pas.
Oui, on est plus maître à bord.
Voilà.
Mais voilà, bien sûr.
Oui, une autonomie, mais enfin, on est prêt à pas se payer pour payer ses salariés.
Oui, complètement.
En fait, mais c'est. Moi, tous les chefs d'entreprise, mes amis qui le sont, on est tous pareils, en fait.
C'est parfois beaucoup de nuits blanches. Même s'il y a des bonheurs, parfois, il y a aussi
Des soucis. Travailler le week-end, les vacances. Il n'y a pas de repos, en fait. C'est vraiment intense. C'est pour ça que quand ça s'arrête, ça fait un vide
abyssal.
On n'a plus rien en tête.
Donc écoutez, merci à tous les deux d'avoir répondu sans détour à mes questions. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui sont peut-être dans votre situation, donc absolument pousser la porte de 60 000 rebonds.
Philippe. Pour ma part, c'est quand on est, il y a des dispositifs quand vous êtes gérant ou patron pour si ça ferme, toucher on n'a pas le droit au chômage, mais toucher une indemnité.
Oui.
Garder de l'argent de côté parce que
essayer de prévoir les mauvais jours.
J'irais qu'en premier, c'est de prévoir l'échec. Et deuxièmement, c'est quand on subit l'échec de dire qu'il y a des structures qui existent comme 60 000 rebonds qui aident et qui accompagnent et qui font beaucoup de bien, en fait.
Merci Philippe Salbert. Carolina, une minute, parce que cette pendule, elle n'est pas à l'heure, en fait.
Ah oui, d'accord.
Donc, voilà.
Alors, moi, je dirais à tous les entrepreneurs, c'est dès qu'ils sentent le début, mais le frémissement d'une difficulté, qu'ils n'hésitent pas à aller voir le tribunal de commerce, puisqu'il existe énormément de procédures.
Il y a la procédure de prévention.
Voilà, les procédures de prévention qui est importante et qui peuvent les éviter. Et la procédure de sauvegarde qui est avant la procédure de redressement qui aussi peut vraiment aider. Et de jamais hésiter, de toujours chercher à être accompagné en tant que gérant, en tant que chef d'entreprise, ne jamais rester seul, surtout quand s'il commence à avoir des difficultés. Et si la fermeture arrive, 60 000 rebonds est là pour eux.
Merci infiniment. Ce sera le mot de la fin. Donc, merci à tous les trois, puisque Monsieur Guillaume Vité est parti. Merci d'avoir passé ces 90 minutes en notre compagnie. L'économie en direct est donc terminée. N'oubliez pas que son podcast sera disponible sur le site idfm98.fr. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous pour votre fidélité. Mardi prochain, je recevrai une délégation précisément du MEDEF, donc ce réseau d'entrepreneurs dont nous découvrirons toutes les missions. Alors à mardi 9h30, d'ici là, belle journée et bon week-end.
IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.